aller dans le 4x4, ça fait le 48.
Bon, on attend que je vous fasse que ça l'ait fait. Ouais. On reteste quand même Toulouse.
Ouais.
Il t'a fait le point, en fait. Bon, alors, vous, ben, vous êtes, pour ceux qui étaient là hier, ben, re-bienvenue. Pour ceux qui n'étaient pas hier, bienvenue aujourd'hui, donc, pour cette deuxième conférence avec donc, nos invités, donc, Gloria et Gauthier. Donc, on va faire un format un peu particulier parce qu'on a plus de contenu que prévu aujourd'hui. J'ai plein de surprises. Nous allons donc commencer par un quart d'heure spécial, dédié principalement et uniquement donc, à Camelot. Donc, si vous avez des questions, faites-les tout de suite. On va tout balancer en un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on a beaucoup de choses à montrer. On enchaîne ensuite avec une demi-heure donc, dédiée au projet donc, Le Prince. Donc, vous allez avoir un teaser de donc, ce projet. Dans lequel donc est impliqué Beau Gauthier de Carmoal. C'est deux fois que je dis directement. Le dernier quart d'heure sera dédié à la présentation de ce court-métrage et donc du projet, voilà. Donc, on va faire plus simple, on va perdre le temps, je vais vous demander donc d'accueillir, s'il vous plaît, le roi du monde de Solénic ainsi que le bras armé d'Attila le 1, messieurs Guillaume Bria, des beaux Gauthier de Carmoal.
Servez-vous des bières, tranquille.
Dans un salon. Quelqu'un des chips.
Ouais.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà.
Hey, déjà pas.
Non, mais c'est W d'un tour.
Moi, j'ai déjà ce.
Ça, c'est la communauté. C'est incroyable. Imagine si j'avais fait un film de boule, c'était... Là, c'était une supposition.
Couchez ça, mec. On va chercher bien.
On a de la contention.
Bon, nous avons peu de temps et beaucoup de contenu, donc allons vite, allons bien. Vous avez deux petits jeunes au t-shirt bleu.
Bravo.
Il est maintenant donc le temps pour vous de les faire courir pour poser des questions. Levez la main, faites-vous voir.
Il y a les mains levées déjà, c'est devant. Madeleine qui nous suit partout depuis le début.
Hey. Bonjour.
Bonjour.
Pas plus d'infos qu'hier par rapport à Saint-Bastien.
Question suivante.
Très honnêtement, pas plus d'infos. C'est ce qu'on disait, ce qu'on dit en conférence, c'est ce qu'on dit en photocall. C'est allez, vous avez plus d'infos que nous. Par exemple, moi, je ne sais même pas comment je m'appelle. C'est lui qui dit mon prénom.
Il a laissé un message et puis.
Ah, ça change tout.
Je vous ai rien dit.
Le professeur,
ah, ouais.
En fait, il ne sait rien de tout.
Mais c'est pas le message.
Il a envoyé des photos du lieu de tournage, mais en fait, on voit rien. C'est très étrange. Voilà, donc c'est toujours rien.
Non, par contre, ça nous donnera l'occasion de revenir au TGS pour vous en parler.
Ils ne sont pas ravis de vous inviter si vous avez des infos en plus.
Non, par contre, vous aurez toute notre note de frais qui s'élève à 122 000 euros.
Vous avez bien choisi de venir, hein, pour
j'ai été très sobre.
C'est un petit peu déjà pour avancer. Ensuite, donc, la demoiselle.
Oui, je suis en jambe. Enfin, je suis en lapin, mais
il faut vraiment que je sois au début.
Oui, oui, il faut, il est vraiment bien. Sinon, moi, j'ai une question sérieuse. Qu'est-ce qui vous a amené à jouer dans Kaamelott, à le découvrir, etc. Et à quel point vous avez aimé être dans Kaamelott?
Qu'est-ce qui m'a amené à jouer dans Kaamelott?
Oui.
Un casting m'a aidé à jouer dans Kaamelott. Non, mais ça démarre toujours comme ça, par une audition, un casting, un moi assez étrange, encore une fois, parce qu'avec avec peu de texte, avec peu d'informations sur le réalisateur, Alexandre, ben, je ne le connaissais pas, lui non plus d'ailleurs. Moi j'ai passé un casting dans le plan, parce qu'effectivement, la plus grosse équipe, je crois, t'as passé un casting au sein de l'équipe. Non, mais c'est vrai, j'ai couché. Oui, c'est vrai. La plus grosse équipe, en fait, était. Il y a beaucoup de comédiens de la famille d'Alexandre, comme vous le savez. Il y a beaucoup de comédiens de Lyon, et puis beaucoup de gens qu'Alexandre pouvait connaître, qu'il avait auditionné, qu'il avait demandé directement de participer. Moi, pour ce rôle de gros roi, bah, il a fait appel à un casting. J'ai passé un casting tout à fait classique, étrange, mais tout à fait classique comme casting. Voilà. Et puis après, c'est quoi la deuxième question ?
À quel point vous avez aimé être dans Kaamelott ?
Oh bah à quel point un vrai plaisir de jeu, vraiment. Enfin, c'est assez rare. En l'occurrence, tous les personnages, il y a vraiment beaucoup de jeux, mais le Ragnaron, il y a beaucoup d'improvisation autour du texte, encore une fois, mais il y avait beaucoup à inventer. Il n'y avait pas grand-chose sur ce personnage. Donc, c'est un vrai plaisir d'impro quand on fait, quand on commence à apprendre à faire des cours de théâtre. On a toujours une grosse partie de cours d'improvisation. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et donc, voilà, ça, là, encore une fois, ça m'a donné la possibilité d'arriver ce soir. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ça m'a donné la possibilité d'improviser sur un personnage, encore une fois, qui n'a que trois mots. Deux paix, un rond, dans la première fois, donc pour l'épisode de l'interprète, avec Laurent Deutsch qui est à côté de moi, le personnage n'a pas beaucoup de réaction hein, dans ce premier épisode. Il est rebute, il pète, il fait comme ça, alors bon, il y a des accessoires. Le personnage est beaucoup de choses, vraiment, le personnage est beaucoup de choses. C'est ce qu'on en fait, bien évidemment, c'est le costume, c'est les partenaires, et là, vraiment, encore plus. Et c'est le texte, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup, là. Voilà, donc, mais un très très grand plaisir, et puis surtout un grand plaisir de se dire, en sortant et très rapidement après ce premier tournage, de m'entendre dire, je vais essayer de réécrire pour toi, je vais essayer de faire revenir le roi de Burgonde dans Kaamelott dans les saisons prochaines. Et c'est ce qu'il a fait, il a été très très fidèle à chaque fois. Ouais. Merci à lui. Enfin, moi.
Moi, c'est différent. J'ai été amené par Bruno Solo qui m'a dit va à cette adresse, il tourne un truc. Je suis allé à cette adresse et il se trouvait que c'était capable. Non, mais c'est impressionnant parce que les Asiatiques sont vraiment partout. Et donc je me suis retrouvé sur cette aventure en sachant pas du tout l'ampleur que ça allait avoir. Je savais qu'il y avait un truc, il y a une magie, parce que effectivement, comme dit si bien Guillaume, c'est que on sent qu'il y a une ambiance familiale. Je pense que si vous êtes fan de Kaamelott, c'est justement ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment ce qu'on a vécu sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y a une vraie unité, il y a une vraie symbiose. C'est une vraie famille Kaamelott. Et pareil, il a eu la gentillesse de me dire la même chose. Il dit, écoute, tes dialogues sont assez pointus, mais ils risquent de changer. Et c'est vrai que, pareillement, il fallait tout inventer. Moi, j'étais juste là pour cette espèce d'épisode zéro. Et après, il m'a rappelé, et puis ça a été génial.
J'aime beaucoup. J'étais juste là, je sais pas pourquoi.
Voilà,
mais c'est en plus c'est presque ça. C'est-à-dire, on est là, on a effectivement une petite partition, mais on ne sait pas trop ce qu'on va faire en fait. On sait qu'on intervient, enfin comme tout dialogue, mais comme le dialogue est pour vous et pour moi est très limité, on n'a pas grand chose à faire. Donc il y a beaucoup de choses à inventer. Il faut inventer une présence.
Ouais,
inventer une présence. puisque le texte n'étant pas beaucoup là, on peut pas vraiment s'exprimer par le texte, il faut inventer une présence. Et c'est pour ça que je répète, mais vraiment, le costume, c'est énorme le costume. Tout, c'est 80% du boulot, on met une perruque, un truc, vous n'avez plus grand-chose à faire, on vous dit, vous asseyez là, tu t'assois là, t'as Lionel Astier, Alexandre Astier, Joël Sevilla. Ok, on y va, 1, 2, 3, c'est parti, action. Et puis on se lance, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Vraiment, on ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi. Moi, la chanson, pardon, à la volette, au mousseau, au volo, je ne sais pas ce que je fais. Et je dis, je fais de la merde. En le faisant, je fais de la merde. Qu'est-ce que je fous là ? Je vois les gens qui sourient. C'est n'importe quoi. Par contre, ça passe.
Pour ceux qui étaient là hier, je vais raconter l'anecdote avec la plus longue avec Attila et cette scène où on tourne avec un Danois, avec un chien qui est immense, qui faisait quasiment ma taille par rapport à l'âme. Voilà. Et c'est pareil. Moi, quand je suis arrivé sur le truc, quand on m'a expliqué le bruit de l'avion, vous voyez, aujourd'hui, vous tournez avec un chien. Parfait. Ils amènent le chien qui est un espèce de poney. Mais tout bon. Déjà, le mec qui apporte le chien, il est comme ça. Alors, qui le prend ? C'est lui. Et voilà, c'est ça, Kaamelott. C'est plein. Voilà, il se nourrit en plus. Voilà, c'est tellement un mec qui a un cerveau qui va à 10 000 à l'heure. Il se nourrit de tous les éléments. C'est-à-dire que, effectivement, si tu peux être dans une période de doute ou de. Voilà, il joue sur cette surprise-là et il y a une grande liberté de jeu qui est extraordinaire.
Surtout qu'il sait s'étonner lui-même par ouais, les,
c'est un grand enfant,
par les comédiens qu'il a devant lui. Donc, il est heureux d'être étonné lui-même de ce qui va se passer. Alors,
désolé, en fait, pour être pris par le temps, une petite dernière
question. Non, j'explique toujours cette anecdote, mais sur Facebook, à un moment, il y avait des gens qui disaient pas « il paraît que Guillaume Briat », ils disaient « il paraît que le roi de Burgonde est un chanteur d'opéra d'un mètre 80 allemand ». Le russe, la russe. Non, je suis parisien, je fais 1m60 et je... Et voilà. Et je suis français.
C'est déjà
pas mal. C'est déjà pas mal, on se débrouille un peu. Être fier de tourner.
On a une petite question en haut, monsieur. Bonjour.
Bonjour.
Petite question sur les conditions de tournage. Donc, à chaque fois que vous jouez, vous aviez une partie de la famille Astier avec vous. Donc, je pense surtout aux scènes avec Léo Dagan et Arthur. Est-ce que ça vous est arrivé de péter un fou rire quand ils s'engueulent sur les tournages ? Du moins.
Oui, il y a toujours la possibilité de rire. Moi, je m'aperçois qu'il était assez sérieux en fait sur la série parce que je disais hier un peu dans mes petits souliers, un peu attentif à ce que je fais, un peu le bleu. Vous savez, vous arrivez sur des séries comme ça, je sais plus, moi quand je suis arrivé, ça avait commencé depuis longtemps, mais comme je disais tout à l'heure, les gens se connaissent, donc on est un peu une pièce rapportée, une pièce étrangère, donc on fait son boulot, on est sérieux, machin. Et c'est après finalement qu'on s'aperçoit que les gens se sont marrés, ce que je disais encore une fois hier, au bonus, 5 ans plus tard, j'ai vu dans les bonus que mes partenaires avec qui j'avais joué se marraient pendant que je jouais. Et pourtant, moi je voyais bien qu'ils étaient, enfin, ils étaient devant moi, je ne m'en apercevais pas, ou je sais pas, j'étais peut-être très concentré dans mon jeu, donc moi-même je ne me suis pas vraiment marré, j'étais ravi d'être là, mais je ne me suis pas marré, j'ai pas eu de fou rire, alors peut-être au troisième, quatrième, mais. Pourtant, je suis très bon public, mais j'ai déjà vu que j'étais assez concentré avec ce personnage éruptant.
Non, mais en plus, il faut savoir que je pense qu'on se marre 10 fois plus sur des films d'action ou de flingage, de flics.
En fait, c'est pas un rayonnage, c'est pas parce que c'est une comédie qu'on se marre tout le temps.
Au contraire, il n'y a rien de plus dur pour un comique de ressortir 15 fois la même balle comme si c'était la première fois qu'il la sortait. C'est vraiment une musicalité très particulière et c'est très compliqué de le faire.
Oui,
c'est vrai qu'on est concentré sur cet instant-là. Après, entre les prises d'équipement, on se marre, mais...
Il y a un rythme aussi d'économie, c'est-à-dire que, par exemple, au début, la série, on tournait dans une usine désaffectée à Arcueil-Cachan, un truc un peu pourri et tout, vous ouvriez une porte, il y avait la table ronde, bon, c'était très très beau, mais autour c'était pourri, vous arriviez là, il fallait tourner, on faisait toutes les scènes de la table ronde, toutes les scènes de chambre, toutes les scènes de machin, là, pour que ça aille vite, pour pas perdre de temps entre deux décors, et donc, en fait, ce que j'ai toujours, on arrive pour Lyon, on arrive le matin à 9h, on tourne de 12h à 15h, et après on part à Paris, puis c'est très rapide, quoi. Donc c'est détendu, hein. Je vous rassure, c'est très détendu, l'ambiance est très très bonne, mais on n'a pas forcément le temps de déconner, et c'est vrai que la comédie amène un rythme très particulier, et moi j'avoue une certaine concentration, c'est pas que quand je fais un truc sinistre, vous allez voir Georges tout à l'heure, je me marrais pas entre les prises, mais finalement c'est peut-être plus détendu, je sais pas, La comédie amène une sorte de... Puis encore une fois, quand vous avez des mecs comme Lionel Astier, Alexandre Astier, et, enfin tout le monde devant vous, vous la jouez sérieux finalement. Hein.
Puis il n'y a rien de plus triste que avoir fait des... Moi je suis un cadre de théâtre. C'est vrai qu'une réunion de comique, il n'y a rien de plus triste parce que c'est à celui qui sortira la plus grosse vanne, évidemment, il y a un tirage de bourre. Et sur Camelot, en fait, on se marrait lors des coupures déjeuner, parce qu'il y avait un côté complètement surréaliste, on était en tenue et on avait une discussion très contemporaine. Donc si tu veux, quand tu vois Bohr tout d'un coup qui a son téléphone qui saute, c'est un peu, l'image est un peu surréaliste. Voilà. Mais sinon, c'était à l'efficacité, on avait très peu de temps pour tourner plusieurs épisodes en même temps, donc ça s'enchaîne très très vite, on met en place le plan suivant, donc c'est vrai, on est dans une énergie qui est très incertaine et très rapide.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous. Je vous laisse.
Vous voir dans l'assistance. En attendant, vous voir. Restez assis. Je vous remets à votre collègue, monsieur Anconat, si je ne m'abuse. De nous rejoindre sur scène, nous allons passer
en collègue. Ça, c'est Boris Antonin, qui est le producteur du teaser que vous avez là.
Donc voilà, nous allons passer à la partie monsieur Prince. Mais avant d'introduire le congé de l'entretien, enfin peut-être, je pense, plus simple, directement envoyer le teaser.
C'est plus
simple. Soyons plus simples.
Et donc, restez là. Bah bon visionnage.
La question la plus simple, quelle est la genèse du projet? En fait, qu'est-ce que vous pensez?
Alors c'est le fait qu'il y a un...
On a le son de quelqu'un d'autre dans...
On a le son de la régie qui est aux toilettes. En retour.
Quelqu'un qui vend de rien au point du fait d'avoir fait quelque chose ce matin. On est pas sûr de vouloir savoir. Oui, on reste à
on tente.
Ah.
Alors le projet il a plus de 4 ans, moi je suis arrivé il y a à peu près un an dessus. Je suis producteur exécutif de tout le projet. C'est un projet qui a été initié par Lacoon Studio, le comédien principal de Patch, c'est lui qui est l'instigateur de tout ça. On s'est battu pendant beaucoup beaucoup de temps pour pouvoir relancer cette aventure. Un court-métrage ou un teaser pour qu'on l'a travaillé comme un court-métrage, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Les subventions n'existent quasiment pas pour ce type de projet. Donc du coup, on a trouvé des financements un petit peu particuliers pour pouvoir monter ce projet. On a essayé d'avoir des conditions proches du long-métrage, on s'en rapproche pas mal, je suis assez content du boulot qu'on a effectué. On a été une équipe de 30 personnes à peu près, il y a eu quasiment 3 mois de boulot pour arriver à ça. Et surtout, il y a eu la rencontre avec Bo qui a changé beaucoup de choses. Vu que quand on l'a rencontré, on a vu lancer l'opération tout de suite et ça s'est plutôt bien passé.
Oui, il m'a proposé le projet par le biais d'un ami qu'on a en commun, qui s'appelle Marius Colucci. Et j'ai vu le projet, j'ai trouvé complètement dingue et j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Et puis, pareil, tout à l'heure on parlait de ça, on fait ce métier aussi pour rencontrer des gens. En tout cas, moi je fais ce métier pour rencontrer des gens et j'ai besoin de la rencontre, que ce soit au niveau des web-séries, au niveau des courts-métrages, ou au niveau de n'importe quel projet, j'ai besoin vraiment de qu'il y ait une rencontre. Et là, il y a une rencontre et je me suis laissé porter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis oui à un projet, j'ai besoin de. Voilà, je suis en confiance et je me laisse porter. Donc j'ai tourné mes scènes et après, j'ai plus entendu parler du projet parce qu'il y a une post-prod qui est tellement lourde. Je l'ai découvert longtemps après et j'aime pas avoir les rushs entre temps. J'aime découvrir des projets aboutis. Et voilà.
Pour la petite histoire, en fait, ça s'est vraiment négocié avec Beau. J'ai pu lui payer un canard pékinois. Et à partir de là, il était partant, en fait.
C'est ça, ça a été un peu très sage. Je sais pas si vous avez des questions. C'est très particulier hein, de vous présenter ça. Moi, il n'est pas du tout sur Internet. Moi, ça me faisait plaisir de vous le proposer au TGS. Voilà. Oui.
Est-ce qu'il y a vraiment une difficulté pour monter des projets comme ça? Par rapport aux États-Unis, je sais qu'il y en a énormément, mais est-ce qu'en France, il manque vraiment une structure administrative pour pouvoir se permettre de faire des projets aussi exceptionnels comme on vient de le voir, parce que ça a l'air d'être vraiment magnifique. Je veux savoir si vous avez vraiment bataillé dur avec l'administration française et justement le développement de cela pour pouvoir le faire.
Alors, nous, on a baptisé le projet Roger Rabbit au départ, qui était vraiment en prise de vue réelle et animation 3D. On a cherché ce qui existait en France, ça n'existe pas vraiment en réel. Il y a très peu de films qui arrivent vraiment à mêler les deux avec ce côté cartoon. Et donc, les distributeurs et les diffuseurs qui permettent d'obtenir des subventions au niveau du CNC, au niveau des régions, sont assez fermés pour ce type de projet. C'est-à-dire que dès qu'on sort un petit peu des cases, c'est toujours compliqué d'être le premier pour lancer quelque chose. Quand on s'appelle Besson, on a quelques facilités, mais quand c'est pas le cas, c'est beaucoup plus dur. Donc là, on a réussi à le faire en fonds propres, c'est vraiment de l'autoproduction pour le coup. Et si on a tourné le teaser, c'est pour prouver qu'en France, on est capable de le faire, avec des moyens adaptés, et qu'on peut être aussi brillant juste en étant un peu dans l'air.
Eh bien, félicitations.
Merci beaucoup.
Lui aussi, surtout, parce que c'est. Il est allé sur un projet pas évident, c'est ça, c'est le vrai métier de producteur, c'est de prendre des risques, c'est de dire voilà, on va partir sur ce genre de projet de dingue. Et il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir des équipes d'anime qu'on vient chercher, qui vont bosser aux États-Unis, qui vont bosser en Chine, qui vont. Voilà, moi je suis sur un autre projet, ce que je vous disais, je ne sais pas si je le disais hier, je suis sur Minuscule 2, qui est réalisé par Thomas Zabo et Hélène Giraud. Hélène Giraud, pour la petite histoire, c'est quand même la fille de Moebius. On tourne la suite au mois de juin. C'est juste un boulot de dingue. Et l'anime en France, nous, ce qu'on a, en fait, ce qui est typiquement français, enfin, je trouve, c'est qu'on sait raconter des histoires. Après, on a un contexte par rapport aux Américains, alors qu'au niveau de l'animation, franchement, et au niveau des effets spéciaux, ça, on a des cœurs à gage. Et je vois aussi, parce que je fais moi mes propres, je viens des arts martiaux, je fais mes propres combats, et je vois aussi ce qui a évolué au niveau de la cascade. Pendant très longtemps, il y avait une grosse influence du cinéma de Hong Kong, qui était un travail avec des câbles, et il y a eu les Yamakasi. Il y a pas mal de gens qui sont venus du parcours de rue, et ça a changé. Et il y a plein de Français qui travaillent sur des grosses productions américaines, donc on a un savoir-faire. Et malheureusement, c'est comme dans tous les domaines, c'est que ces talents-là ne restent pas en France. Ils sont sous-employés, ou alors, effectivement, il y a une lourdeur aussi administrative qui fait que c'est très compliqué, c'est des projets tellement lourds, et on a un complexe, entre guillemets, une infériorité, par rapport, alors qu'on a le savoir-faire et on a la créativité pour.
Dans le cas de Prince, donc moi je viens des Gobelins, donc je connais un petit peu le milieu d'animation, et je sais qu'on se fait souvent débaucher à l'étranger. Le projet a mis 2 mois de post-production, et ils étaient que 3 personnes à faire l'animation, en moins de 2 mois. Vous voyez le boulot qu'ils sont capables d'effectuer sur une période très courte et avec aussi peu de ressources. Imaginez avec des moyens plus adaptés ce qu'on peut faire.
Alors, y a-t-il d'autres questions? Juste devant la casquette.
Bonjour.
Marty Four.
Alors, je voudrais savoir s'il va voir. En fait, c'était le doubleur de Arnold Schwarzenegger. Enfin,
je trouve oui, c'est ça. C'est la voix française de... Non, chose est
légale. Non, bon, c'est tout.
justement, dans le teaser, on a vu qu'il y a une quantité de références que c'est astronomique. Est-ce que justement, le fait de prendre Michel Data, c'était volontaire dans une référence de plus?
Alors, oui, c'est aussi une somme de chance. En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en Corse par hasard. Et quand on rencontre Daniel Beretta, on se rend compte tout de suite de qui c'est. Quand on est à table avec lui, passe-moi le sel, tout de suite, ça prend du poids. Il est un peu inquiétant au départ, et en fait, c'est quelqu'un de très très gentil et parfaitement abordable. Et il m'a dit, si t'as un projet qui tient la route, tu m'appelles, je viens. Deux semaines après, tu m'as envoyé ça, il m'a dit, je viens. C'était assez simple.
Effectivement. Bon, on va voir ensuite. Nous avons une question tout en haut, le monsieur au t-shirt noir.
On voit dans le teaser pas mal de références à des grandes œuvres comme Star Wars et autres. Vous n'avez pas peur que ça pose un problème de droit et de procès?
Alors on n'aura absolument pas le droit pour un long métrage qui génère de l'argent d'avoir ces références sans les obtenir avant. Donc on aura certaines limitations. Le but en fait de ce film, c'est qu'il est très marqué 90, comme vous l'avez peut-être ressenti. Et moi, je considère que l'âge d'or du cinéma a été les années 90 pour moi, de par ma génération, et j'avais même rendu un certain hommage à cette époque que j'adore. Et c'est pour ça qu'on on va la référencer de manière un peu plus subtile pour la suite. Les transformations, c'est quasiment un petit kiff qu'on s'est fait pour nous. Quand le film aura lieu, on sera un peu plus distrait.
Ensuite, n'hésitez pas. Ici.
Donc, quel serait le meilleur futur pour un long métrage, une série, un programme court qu'est-ce que vous aimeriez en faire
Alors, Prince, l'ambition unique de ce que vous venez de voir, c'est un long métrage. On a créé une société de production, donc les films du pain solitaire, donc a été matriculé au retour de Marty McFly pour l'anecdote. Et si on a monté cette boîte, c'est uniquement pour faire ce film. C'est une somme de plusieurs sociétés, donc Lagoon Studio pour la 3D, Epic Studio pour la partie de prise du réel. Et le seul but de cette boîte, c'est de faire ce film.
Oui.
Oui, bonjour, c'est pour M. Bourg. Comme acteur, est-ce que vous mettez votre touche personnelle à chaque rôle qu'on vous propose, comme dans la tour infernale, ou comme dans Camelot? Est-ce que vous mettez quelque chose à vous qui appartient en dehors du scénario qu'on vous propose?
J'essaye de toujours inclure une touche bretonne. C'est très très important pour moi, le côté celte qui vit en moi. Non, quand je reçois un scénar, j'essaye, oui, effectivement. Là, en plus, le personnage est vieilli, on essaye de... C'est ça, et tout à l'heure, Guillaume disait un truc très juste. Moi, une partie que j'adore moi, dans le montage d'un film, pour moi, un truc qui est très important et qui malheureusement, par moment, n'existe pas parce que de plus en plus, pour des raisons d'économie ou de ficelle, on vous demande de venir tourner avec vos propres freins. Et ça, c'est très énervant. Mais pour moi, le passage aux essayages costumes, c'est vachement important. Donc, j'ai vraiment pris du plaisir et on a créé le personnage sur le plateau, finalement, avec le choix des costumes, avec le maquillage. Et puis après, on est allé à tâtons, et puis ça vient tout seul. Donc c'est un mix de tout ça. Mais je sais, oui, effectivement, on a très bonne indication. On est sur un autre projet avec Guillaume Briat, et dedans je joue un personnage qui est sourd et muet, parce qu'il a été irradié à Fukushima. Ça lui met en vert quand il n'est pas content. Très très logique finalement, et là il y avait tout à inventer, c'est-à-dire que voilà, il fallait vraiment que c'est pas évident quand tu reçois le script et que donc, tu dis voilà, il est sourd et muet et il fait ça et il faut qu'il se fasse. Et on a une scène avec Guillaume qui est un super souvenir dans une cuisine où on est parti en impro total, où il joue un chef cuisinier et on est en train de peler des huîtres pour vous donner un petit peu la teneur du truc, et c'est vrai que c'est les choses arrivent, c'est un ping-pong, on apprend encore à se connaître et on a pris plaisir à tourner ensemble. Donc c'est ton partenaire de jeu, c'est un tout. En fait, une scène, c'est le cadre qu'on va te donner, la lumière qu'il va y avoir, ton partenaire de jeu, cette envie que tu vas avoir, un réal qui sait ce qu'il veut aussi. Et quand il sait pas trop ce qu'il veut, c'est à toi aussi de nourrir tout ça. Mais en général, c'est déjà un peu prédéfini par le script. Voilà.
Dans le cas de Prince, nous, enfin, l'intention de casting, c'était un bilan de Mogwai. Voilà, c'est un bien riche.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Déjà, bravo pour votre
ensuite, l'histoire, le scénar, ça part de quoi, en fait? Parce que là, c'est...
Alors ça, c'est un peu la question piège, parce qu'il y a eu, je crois, 12 versions de pré-scénario, de pré-traitement. Même le teaser que vous avez vu a été écrit par une autre personne pour le coup, qui est d'accord, avec le réalisateur, qui a été aussi trouvé assez tardivement, qui a un très bon copain à moi et qui a donné sa patte. Aujourd'hui, on a un teaser, on a un scénario. Ça s'est jamais arrivé. Donc, on est en train de faire.
Le réalisateur s'appelle Clément Gonzalez, qui est un petit jeune qui est un tueur à gage. Et c'est vrai que quand moi je suis parti sur cette aventure, très honnêtement, je savais absolument pas ce que j'allais tourner, à part que j'allais niquer des moustiques.
C'est toujours plus détaillé que ce que tu en fais,
c'est très clair. C'est très clair. C'est déjà ça.
Ensuite, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Vraiment. Je vais vous poser une autre question. J'aimerais savoir, par rapport au projet Presse, par exemple, les acteurs qui vont jouer dedans, comme vous l'avez dit, il faut de l'argent pour réaliser ça. Est-ce que ça vous arrive de par exemple, sur une convention, si vous arrivez à voir quelqu'un qui peut être assez joli sur l'écran ou qui vous a donné une bonne impression, de l'inviter sur des projets comme ça, puisque c'est quelque chose qui s'ouvre, et de leur proposer des rôles, des petits rôles très, très courts pour animer vos scénarios. Ça vous arrive de le faire, ça ou pas du tout?
Je fonctionne beaucoup à l'humain, comme pour vous, donc c'est le cinéma, c'est une somme de rencontres. Moi, au départ, si je fais ce métier de producteur, c'est pour raconter des histoires et déclencher des émotions. Et pour faire ça, c'est l'humain qui prime avant tout. Donc que les personnes soient comédiens, qu'elles soient amateurs, à partir du moment où on s'investit, que l'on se bat, et on est un petit peu patient, comme dirait Beau, évidemment, ça peut fonctionner. Donc c'est déjà arrivé, pour le coup, à d'avoir des amateurs qui viennent sur nos projets et qui donnent tout ce qu'ils ont. Donc, bien sûr, il y a des essais, il y a des répètes, on n'a quand même pas le droit à l'erreur sur le plateau, mais c'est déjà arrivé. C'est un métier d'humain avant tout.
Il n'y a pas de règles, il y a des parties, il y a des castings sauvages. Donc, Romain Duris a été casté comme ça pour le Péril Jeune. Il n'y a vraiment pas de règles. C'est très étrange, mais tu n'es pas des décideurs de grand-chose finalement. Il peut y avoir des rencontres, oui, effectivement, assez surprenantes. Moi, c'est vrai qu'on m'a proposé des projets par hasard, sur lesquels je suis allé parce que je sentais que le Réal savait où il allait, il avait une vraie envie. Après, le scénar, je décide d'y aller ou pas, mais c'est... Ouais, je pense qu'il faut... aussi croire, ou plutôt, après c'est dosé tout ça, mais il y a des rencontres surprenantes. Et c'est ça qui est très excitant aussi. Si c'était toujours, ça se passait toujours de la même façon, ça serait un peu chiant pour nous. C'est effectivement la voie classique, on t'appelle pour passer des essais, on propose un truc, tu reçois de moins en moins les scénarios complets, tu reçois tes scènes, tu vas jouer, mais finalement, ce qui est très excitant, c'est oui, c'est de partir comme ça sur un coup de cœur, sur une rencontre. Il faut qu'il rentre. Il y a Béatrice Dalle qui est comme ça, qui ne lit absolument pas les scénarios qu'elle reçoit, mais qui rencontre les gens et qui se dit tiens, ouais, lui, j'ai envie de tourner avec lui. Je trouve qu'il n'y a pas de méthode, il y a un ressenti qui appartient à chacun et qui fait que.
Ah, vous avez une question au premier rang juste ici.
Oui, encore moi. Moi, c'est pour la prod que j'ai une question. Je pense que c'est la dernière fois que vous êtes allé dans un cinéma. Donc, on va faire une petite mise en situation. Les gens, quand ils vont au cinéma, ils veulent. Vous allez voir ça à la terminer. Ils veulent voir du film qui leur vend du rêve, etc. Enfin, ils veulent un truc qui marche. Évidemment, ils vont voir des trucs qui. Enfin, américains, quoi. Faut dire ce qu'il est, ou Disney, etc. Comment vous. Enfin, sur quoi vous comptez pour que les gens, quand ils rentrent dans un cinéma, qu'ils savent pas ce qu'ils... quand ils rentrent, ils savent pas ce qu'ils veulent voir. Sur quoi vous comptez, incidemment sur quoi vous comptez pour que les gens ils choisissent votre film à la place d'un autre?
Alors ça, c'est une question très complexe qu'on pose régulièrement à tous les producteurs, c'est déjà un petit peu l'habitude. Je préfère botter en touche et vous dire ce que je pense vraiment plutôt que faire la réponse toute seule que je fais d'habitude. C'est un peu plus sympa, je pense qu'ici, au TGS, ça se prête vraiment. Le cinéma, c'est du divertissement. C'est du divertissement avec des messages. On essaie de placer d'une certaine manière pour les gens. Alors en plus, si on fait des films, c'est pour le public, c'est pas pour nous, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour la notoriété. Donc à partir de là, On a eu plusieurs idées. Moi, je fais partie de la génération des années 90. J'ai tendance à croire que ce que je fais peut plaire aussi aux gens de ma génération et par extension à d'autres gens. Le projet, tout le monde se rappelle, The Mask, tout le monde se rappelle de Roger Rabbit, c'était le projet phare donc des années 90. Et j'aimerais retrouver un petit peu cet âge d'or pour le public. Et je pense que le public est en demande aujourd'hui. On est dans un monde remake depuis 10 ans, je ne parle pas de ce qu'on voit. Enfin, je ne parle même pas de Batman versus Superman, parce que sinon je vais avoir des notes, je pense. Mais en attendant, il y a un public, il y a une attente, et je pense qu'il ne faut pas considérer le public comme quelqu'un de stupide qui mange au quotidien des films. Au contraire, il faut le nourrir, il faut l'écouter, et à partir de là, on peut écrire des histoires pour lui.
Il n'y a pas de recette, surtout. S'il y avait une recette pour dire, voilà, on va faire un peu de mystère, on l'appliquerait tous. Quand ils font Babysitting, le premier, ils ont un budget ridicule, personne ne veut miser dessus, et ça fait un carton. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat. Mais il n'y a tellement pas de règles. C'est-à-dire que moi, quand je tourne, par exemple, la tour Montparnasse infernale, je vais faire mon métier d'acteur, je vais tourner un film, et je suis complètement dépassé par ce qui se passe. Après, ça ne t'appartient plus du tout. Tu te laisses porter. Kaamelott, c'est pareil. Je prends l'exemple de Kaamelott, mais j'ai tourné 3-4 épisodes. C'est un truc, t'en reviens pas, à chaque fois que tu dis merci évidemment, mais ça te dépasse complètement ce ressenti-là, il t'appartient plus. C'est-à-dire que tu livres un film, et après tu sais pas. Il y a des fois où tu as l'impression, ouais, ce film va cartonner, et puis finalement c'est un vide total, et des fois tu dis non, ça marchera pas, si ça te plaît, et finalement le film marche. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de petit film, de grand film. Déjà, c'est un accouchement tellement douloureux, aller chercher de l'argent, ne serait-ce que. Finalement, en plus, il y a tellement d'étapes. Tourner un film, c'est pas ce qui est compliqué. Finalement, on peut tourner, prendre une caméra, voilà. Après, il faut le distribuer. Une fois qu'il a été vu sur les écrans, enfin, qu'il est projeté sur un écran, il faut faire venir les gens dans la salle pour qu'ils voient ce film-là. C'est une roulette, c'est très injuste. Tu sais pas ce qui va faire que ça va. Tu peux avoir plus ou moins le film. Des fois, tu te dis, ah oui, ça risque de prendre. Et il y a des fois, il y a une grosse boucle aussi, tu te dis, non, ça marchera pas jamais, et ça cartonne. Ouais. Donc, c'est. Il n'y a pas de règles, c'est assez surprenant pour ça.
Puis d'un autre côté, un projet, un développement de projet, de long métrage, même de série, c'est plusieurs années, donc c'est 2-3 ans. Après, vous arrivez au casting, au tournage, à la post-production, pour arriver à faire la distille. Donc c'est-à-dire même si vous avez une bonne idée, toujours se projeter à 3-4 ans par rapport à ce qui va se passer ensuite. Donc la recette toute faite, non, elle n'existe pas.
Oui. Puis là, en l'occurrence, pour moi, j'ai fait mon job, j'ai tourné ça, j'espère. Il y aura une suite et je vais continuer à se voir et on échange vraiment là-dessus. Après, ça t'appartient plus, quoi. Vraiment, j'espère vraiment qu'on aura les moyens. Et c'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire que tu couches le soir, tu dis que tu n'as pas de projection, et puis tout d'un coup, tu reçois un coup de fil le lendemain qui n'était pas prévu et qui d'un coup change la donne. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de règle.
Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième partie de la conférence. Messieurs, merci beaucoup.
Vous allez voir, la suite est beaucoup plus funky. On était un petit peu sérieux, mais la suite est vraiment plus funky. Merci beaucoup.
Rejoignez-moi.
Tu viens.
Bonjour. Voilà, asseyez-vous. Alors, est-ce que vous souhaitez présenter le projet avant ou est-ce qu'on peut préparer, on lance la diffusion et on voit.
Alors, lequel est-ce? Il y a deux films en fait. Là, c'est lequel dans quel ordre? Il y a Georges et Effet l'Indésirable. Je ne sais pas par quel ordre c'était.
Je me demande comment ça marche.
Effet
Georges.
Ou Georges
George.
Effet Fais-moi un signe.
Georges.
On me dit Georges, là.
Georges.
Ah, Georges.
C'est monsieur Georges. Alors, eh bien, Georges, il est devant vous, monsieur. Georges, il est devant vous. Nous sommes les coproducteurs, donc Benjamin Gigon et moi-même. Je suis le scénariste et réalisateur aussi du film que vous allez voir, qui est un thriller. Voilà, j'en dis pas plus. Ça dure 7 minutes. Et puis après, il y aura le deuxième qui sera une comédie, toujours avec un petit bout de Guillaume dedans. Sur ce, messieurs.
Donc, on peut
il y a eu un petit problème de son sur le... Beaucoup de chance. Normalement, ça pète bien le coup, mais là, il n'y a pas eu. C'est pas grave. Mais voilà. Vous êtes tendu, ça vous a tendu, ça vous a stressé un peu. Ça va, ouais. Bon. Le court-métrage suivant, c'est aussi de la tension, mais dans la folle comédie.
Est-ce que vous avez quelque chose de particulier, justement, par rapport à ce court-métrage que vous voulez préciser
sur Georges ou sur le prochain?
Sur Georges, pourquoi pas?
Sur Georges, tu veux dire quelque chose?
Non, vas-y.
Georges amorce une série qu'on va lancer dans l'esprit de Black Mirror ou Les Contes de la Crypte ou Quatrième Dimension. C'est-à-dire une série d'histoires indépendantes les unes des autres, sous forme de court-métrage, de mini-séries assez courtes. Plutôt de la science-fiction, de l'horreur, de l'heroic fantasy, un peu de fable, etc. Enfin, plutôt du drama. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de lancer.
Et concernant donc le prochain.
Alors le prochain, alors Georges est en festival, vous ne pouvez pas le voir sur internet, c'est un peu une exclu ici. Il part la semaine prochaine au Manhattan Film Festival, il enchaîne ensuite à Cannes, il va faire plusieurs festivals donc pendant peut-être 2-3 ans, donc on ne le mettra pas tout de suite en ligne. Sur Effet l'Indésirable, alors c'est autre chose. Qui ici connaît le 48 heures film project? Si vous levez la main, est-ce que vous connaissez un peu le concept? Non. Pratiquement personne, donc je vais vous expliquer rapidement. Le 48 heures film project, tout est dans le titre. L'idée, c'est de faire un film en 48 heures, c'est-à-dire qu'on se rend à un endroit précis, on tire au sort un genre, chacun a un genre différent, on est tombé sur film muet, et ensuite tous les participants ont trois conditions, trois éléments à imposer dans le film. Une réplique, donc un personnage et un accessoire. Voilà. Et on part le vendredi soir avec ces conditions-là et on va rendre un film tourné, monté dimanche soir. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que vous allez voir ici, je ne vous en dis pas plus, vous avez eu je vous en dis pas plus. Et ça dure 4 minutes.
Thank you. Il y a beaucoup de tension aussi. Hein.
D'abord, le film a été tourné, écrit, tourné,
tourné
en 48
heures. En gros, pour la petite histoire, effectivement, donc on est deux, il y a Valérian qui est ici et moi-même, et Valérian est allé sur place tirer au sort. Moi, je me suis promené, il y a un grand magasin à Paris qui s'appelle le BHV. Alors pourquoi je me suis promené au BHV? Parce qu'il y a tout au BHV. Et du coup, c'est vachement inspiré. Il me dit en fait que c'est un film muet, il me dit les éléments, donc souvenirs touristiques, et je dis, ah bon, d'accord, je vais dans les rayons. Et là, je vois en fait plein de tours Eiffel, c'est des tours Eiffel un peu stylées, etc. Et j'ai fait, ok, d'accord, ça sera ça. Et puis après, je ne sais pas si mon esprit tordu, j'ai fait, ok, ça sera ça. Placement de produit, très bien, meilleure utilisation, on a eu le prix, on est content de ce prix-là, vraiment. Et le film qui restera dans les annales. Je me dis, ça peut pas être la chute. Si c'est la chute, c'est grossier, c'est pas beau, on va le mettre en amorce. Du coup, ça devient destination finale. Et j'ai dit, d'accord, on comprend, c'est pas vulgaire, c'est comment ça va se passer. Et il me vient en tête les anecdotes d'une copine aux urgences. Je pense que vous avez entendu sans doute les mêmes anecdotes que moi, mais. Voilà, c'est comme le bazar de l'hôtel de ville, il y a un peu de tout dans le fondement de l'humanité, quand on arrive aux urgences, et la plupart des réactions des médecins, c'est bon, on s'en fout de savoir comment, ou c'est dangereux, on va vous l'enlever, votre dose d'éclair de votre fils qui est tombé dans le port. Voilà. Et les gens disent, mais je comprends pas, je me suis assis, puis ça s'est passé comme ça. Et exactement. Et moi je me suis dit, et si c'était vrai, en fait, si c'était la vérité, ben oui, il dit ça, quoi, il raconte ça. Et lui, il dit, bien sûr, c'est pas grave. C'est pas grave, on l'enlève. Voilà, j'étais parti là-dessus, donc l'histoire, je l'ai lu tout de suite. Je suis retourné voir l'équipe, Valérian et tout le monde, on a convoqué tout le monde. J'ai acheté la Tour Eiffel, on a imprimé sur un petit cellophane comme ça, ce truc de conférence, là. Des trucs transparents, donc les radios sont petites comme ça, en fait, hein, c'est même pas à l'échelle. Et puis, on a tourné le vendredi, le samedi, tout le samedi. Puis après, moi j'ai fait le montage le dimanche, Valérian a fait le mixage, et puis hop, on a donné la clé USB le dimanche soir. Voilà, puis on a eu un box au prix-là, le prix meilleur placement de produit. Moi je préfère avoir celui-ci que le prix de meilleur film. On a eu le prix de meilleur film pour d'autres. Pour ce film-là, mais pour, dans d'autres festivals, on ne pensait pas que ce film allait continuer sa vie. Pour nous, c'était un concours, on passait à autre chose. Moi, j'ai plein de défauts, parce que, évidemment, 48 heures. Mais bon, voilà un peu l'histoire du film. Quoi.
Et sans mauvais jeu de mots, il est antérieur ou postérieur hein?
Alors, on l'a fait avant. C'est bon, on l'a fait avant, voilà. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait à New York, hein, parce que la Tour Eiffel, ça passe encore. Le World Trade Center, oui, ça passe, remarque, le World Trade Center maintenant. Le nouveau,
moi.
Voilà, et donc Guillaume est mon partenaire. Enfin, non, c'est, dans le film, on ne se croise pas, on se croise au tournage. Ah, si, on se croise au début, bien sûr, tu l'as, moi je suis au fond avec les griffons, bien.
Je suis toujours là.
Je suis toujours là, j'avais très loin de toi. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur Georges ou sur l'affaire Indésirable? N'hésitez pas. Comme vous avez vu que la Tour Eiffel, il n'y a vraiment pas de questions cycliques, je pense. J'en ai encore. Monsieur, très prolixe aujourd'hui aux questions. En fait j'ai deux questions. L'une est pour le producteur, l'autre pour le comédien, qui est Guillaume. Pour vous qui avez vu, qu'on a vu aujourd'hui, vous avez joué trois rôles bien distincts. Lequel est le plus dur pour vous et comment vous arrivez à vous intégrer réellement sur cette différence, puisque le premier est comique, l'autre est vraiment psychopathe, on peut dire le terme. Et le troisième, c'est du muet en plus, c'est quand même différent pour faire passer les messages. Et la seconde question est, pour le producteur, quel est le plus difficile à réaliser entre un petit court-métrage, mais qui a l'air d'être très intense, long-métrage qui peut engendrer plusieurs choses, mais qui se fait à la suite, ou des séries qui vont durer plusieurs épisodes.
Guillaume. Comme ça, je réponds.
Bah, écoutez, le comment passer de l'un à l'autre, c'est vraiment le plaisir du jeu, tout simplement. Le plaisir de jouer, encore une fois, une partition différente, c'est comme un musicien qui va jouer du Bach, du Brahms, voilà, du Schubert, enfin, tout ça est très différent et en même temps c'est toujours le même travail, toujours finalement assez sérieux, que ce soit de la comédie ou on prend ça sérieusement, et on prend ça sérieusement tout en s'amusant, voilà, c'est finalement ça. Après, c'est vraiment toujours le même métier, que ça dure 2 minutes, 1h30 à l'image, un rôle principal, un rôle de
bah, Jean-Claude, pour enchaîner un peu sur ta question, est-ce que c'est de pas savoir aussi comment toi tu as appréhendé le rôle de Georges, par exemple, du personnage qui rentre?
Bah, moi, le rôle de Georges, je l'ai appréhendé là aussi très très simplement. Je dis toujours les mêmes mots, le partition, mais la partition est simple, le texte est simple, évidemment, on a fait des répétitions pour Georges.
Il y a eu pas mal de lectures.
On parle pas beaucoup, on sait à peu près où on va, on est à peu près sûr qu'on va dans la même direction. Ça arrive des fois qu'il y ait assez rapidement, ça peut arriver avec un metteur en scène, on ne soit pas tout sur la même longueur d'onde. On a plutôt envie d'aller dans cette direction, le metteur en scène va nous proposer une autre proposition qui ne nous satisfait pas forcément. Mais enfin, bon, et là, c'est très logique. C'est un personnage simple, bonhomme, plutôt aimable, peut-être même gentil. Et puis, c'est pas le personnage qui change, c'est le scénario. Donc, moi, je n'ai qu'à suivre le scénario sur 7 minutes, quoi. Voilà. Faut jamais pléonasmer un criminel n'est pas forcément un monstre avec des yeux exorbités. Enfin, voilà, c'est un personnage très simple. Et c'est le scénario qui mène à l'action, quoi. Je sais pas, il est trop juste, c'est clair.
Et pour la partie production, alors que ça soit un court-métrage, même un sketch ou un long, pour ma part, c'est avant tout l'écriture et l'émotion. L'émotion, qu'elle soit positive, négative. Enfin, voilà, est-ce qu'on rigole, est-ce que voilà, on a peur, etc. Mais c'est de transmettre une émotion, parce que c'est l'émotion qui est le moteur en fait de l'empathie entre le personnage et le public. Donc après, ce sont les méthodes d'écriture. Moi, j'ai commencé à écrire dans le temps pour H, par exemple. À l'époque, c'était l'usine. Et après, avec des masterclass, on apprend à écrire des noms, on apprend à écrire des sketchs. Mais à chaque fois, il y a la même mécanique, un peu, vous connaissez, avec le climax, etc. L'impression élastique, en fait, c'est un élastique. Donc pour moi, c'est la même chose, c'est la même écriture. Généralement, pour les comédies, là, je suis en train d'écrire le long métrage, c'est une comédie, on l'écrit de manière sans aucun gag au départ. C'est assez curieux, mais il faut mettre quelque chose de beaucoup de valeur humaine. Je vais vous donner un exemple assez frappant, un film que vous connaissez tous depuis 30 ans. Le père est une ordure. Si vous voulez, si vous enlevez toute la comédie, c'est un drame. C'est quand même un mec qui est suicidé, il y a un suicide au début, il bat sa femme, c'est un peu rigolo, il est SDF, il va à sa amitié, il y a un travesti qui a des problèmes, pardon, vous connaissez la fin, c'est pas trop drôle. Mais c'est un drame humain, mais après on met toute la comédie, les répliques, etc. Mais ça c'est la deuxième, troisième, quatrième couche. Donc moi je pars sur la première couche toujours. La tour Eiffel, pardon, c'est un drame pour moi, c'est un véhicule. Mais voilà, donc vous avez compris, voilà, pour moi j'écris de la même manière. Après c'est les couches qui vont permettre d'amener du cynisme dans Georges, puisqu'il est cynique finalement, il n'est pas drôle, il est cynique, parce que dans un drame, la drôlerie devient du cynique. Et donc voilà, c'est les couches que vous mettez ensuite, mais d'abord c'est quelque chose de structurel. Et comment faire passer l'émotion entre le comédien et le public.